With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky. Bieber left. 75. Katie. Omaha. Quick guy.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 544 du podcast J'en Actuel à Mati. Très heureux de vous retrouver pour la suite et la fin du débrief de la 11e semaine de NFL. À mes côtés, de vert vêtu, tiens d'ailleurs, est-ce que c'est un hasard? Raphaël Masmejean, bonjour.
Hasard, je ne sais pas, mais oui, c'est bien du vert. Salut Alain, salut tout le monde.
Victor Roulier est là aussi, bonjour Victor.
Et bonjour Alain, bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
T'as un peu moins de lumière, donc je vois pas la couleur, c'est du
marron.
Noir. C'est du marron noir, ok.
D'ailleurs, en faisant une remarque sur mon t-shirt, tu me permets de remarquer qu'il est à l'envers depuis le début de matinée. Je suis juste allé en boutique, mais bon, ce n'est pas grave, tout se passe bien.
c'est pas grave, c'est genre de relâche. Donc,
voilà, c'est ça.
Tu peux te permettre. On va parler de deux attaques en galère, on va parler des Eagles qui s'accrochent et on va parler des Rams au fond du trou dans cet épisode. Un petit jingle, je vois que Victor s'échauffe. Victor est là pour un... Il n'est pas souvent là pour les débriefs, donc là j'espère qu'il est bien bien chaud. On va lui mettre une musique un peu vénère pour commencer et c'est parti.
Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Patriots 10, Jets 3, c'est notre premier match de la semaine. Si la tristesse offensive avait un nom, messieurs, je l'écrirais J-E-T-S, Jets, 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 évidemment. Aucune des deux attaques n'a marqué dans ce match. Les Patriots l'emportent grâce à un retour de punt à 5 secondes de la fin. On croyait vraiment qu'on allait tout droit en prolongation sur un 3-3 hein, quand même. Les Jets ont gagné 103 yards au total au sol. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est moins que le retour de Cordarrelle Patterson avec les Falcons hein, dont on va parler, le retour de kick-off. Bref, 9 passes complétées pour Zach Wilson, 10 punts pour son équipe. Il y a plus de punts que de passes complétées. Raphaël, il est comment Zach Wilson?
Ah, écoute, je crois que je me suis déjà assez exprimé sur lui la dernière fois. Donc, je ne vais pas ressortir la sulfateuse. Il n'est pas bon. On l'a vu, là. C'est vraiment... Et on n'avait pas forcément pris beaucoup de temps de le développer la dernière fois, mais il lui manque les qualités de ce qui fait un bon quarterback. C'est les prises de décision, c'est la capacité à faire des lancers propres. Et souvent, moi, je le trouve perdu avec le ballon et il ne sait pas quoi faire. Je suis pas loin d'être persuadé qu'il ne sait pas quoi faire avec le ballon. Et ça se voit encore. Donc dans un match où en plus il a pris la pression, tout ça, bah voilà, c'est ça.
9 sur 22, 77 yards, 4 sacs. Si tu retranches les 33 yards perdus sur les sacs, ça fait plus que 44 yards net hein, sur le jeu aérien pour New York. Il en est à 4 touchdowns pour 5 interceptions en 7 matchs. Tu l'as dit, il est pas bon. Victor, faut le mettre sur le banc. T'es dans la course au play-off. Même dans ce match, pourquoi tu tentes pas n'importe qui, en fait, au milieu du troisième carton?
Alors, oui, déjà, sur le terrain, rien que sa performance nécessiterait de mettre sur le banc. Et ce qui est encore plus inquiétant, alors je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais quand on voit la plupart des leaders dire « Oh, la défaite, elle est pour moi, j'ai été nul, machin », alors que parfois, ce n'est pas exactement pour eux, là, on lui a demandé « Est-ce que l'attaque a laissé tomber la défense ?» Ce mec a dit « Non ». Ok. Et bizarrement, tous les défenseurs des Jets commencent à liker des tweets un peu durs.
Je sais pas si tu as vu, Sauce Garner a dit oh, je voulais pas liker ce tweet, c'était une erreur. Franchement, vous me l'avez fait remarquer.
Ouais.
Et c'était une erreur, j'ai pas fait exprès de liker ce tweet, quoi.
Oui, non, mais il dit ça parce qu'il est rookie, mais je peux te dire que les autres. Non, mais en vrai, parce que vous parliez, je crois, il y a la semaine dernière des Broncos où vous disiez ah, la défense, elle doit être vénère parce qu'elle fait tout le boulot et l'attaque réussit pas. Bah, la défense des Jets, ça peut être vénère, hein, parce qu'elle fait un match absolument incroyable. Et en fait, cette équipe, elle est à un quarterback de pouvoir jouer les playoffs. On sait que le jeu de course a été un peu affaibli par la blessure de Breece Hall, mais il y a quand même du talent. Il y a James Robinson, il y a Michael Carter, bon, qui sur ce match-là sont pas bons, mais personne n'est vraiment bon en attaque. Mais Zach Wilson, donc déjà qu'il est nul sur le terrain, pour citer un grand philosophe, il est cramé. Si en plus, tu te retrouves à avoir un joueur qui assume même pas dans le vestiaire que la défaite, elle est pour lui. Oui, on commence à avoir un gros problème parce que cet effectif, il est plein de talent, il est plutôt bien coaché en général, ça défend bien. Tu peux pas te permettre de perdre des matchs comme ça. Et tu disais, enfin, les attaques, quand tu dis les attaques ont pas marqué, bon, théoriquement, elles ont marqué 3 points chacune, tu vois, mais ça reste des field goals.
Ouais.
Mais les Patriots, ils font quasiment 300 yards dans ce match. Ce qui sauve les Jets, c'est une inefficacité en red zone. Et un kicker qui loupe 2 field goals au moins de mémoire, peut-être 3, mais au moins 2. Et clairement, enfin, ce match, alors oui, sur le retour, il y a une faute qui est pacifiée, etc. Honnêtement, c'est une excuse de loser. Hein. C'est comme les Eagles. Enfin, ils ont perdu face à Washington. Oui, il y avait face mask, mais c'est pas à cause de ça qu'ils ont perdu, quoi. Là, c'est pareil. C'est pas à cause de ça qu'ils ont perdu. Je veux dire, honnêtement, ils se sont fait bouffer dans ce match. Et ils n'ont jamais réussi à vivre parce que Zach Wilson est incapable de compléter une bonne passe, quoi. Et on ne compte même pas. Il y a 2 interceptions droppées. Ça aurait pu être bien pire. Enfin, vraiment, c'était nul, mais nul de nul.
Donc, reviens à ma question de base. Est-ce qu'il faut le mettre sur le banc pour...
Oui.
Et tu joues les playoffs, en fait. Hein. Tu es à 6 victoires, 4 défaites quand même, malgré tout ça.
Bien sûr. Mais oui, il faut le mettre sur le banc. Et par contre, faut pas mettre Flacco. Qu'on soit clair.
Bon, il y a White, qui est derrière.
Oui, bah, il n'a pas fait des mauvais matchs quand il était titulaire.
Ah bah, de toute façon, ça ne peut pas être pire. Moi, si vous voulez, c'est un peu aussi, on parlait d'excuses. Quand je vois revenir, oui, mais le jeu au sol et Breece Hall et puis là, etc. Oui, très bien, mais au bout d'un moment, c'est à ça que ça sert un quarterback, surtout quand tu le prends en numéro 2 de la draft. C'est qu'à un moment, il est censé, quand le jeu au sol est moins bon, parce que bah, forcément, tu n'auras pas 300 yards au sol à côté de toi toutes les semaines, sinon ça ne sert à rien d'avoir un quarterback de toute façon. Donc oui, c'est à ça que ça sert. Et donc, s'il est complètement incapable de faire ça, bon, bah, je pense que la décision, elle est là. Après, encore une fois, je pense que tu peux le mettre sur le banc maintenant. Peut-être que tu continues à le couver, peut-être qu'il continue à travailler, peut-être que si tu crois vraiment en lui, tu le ressors l'année prochaine. Mais là, tu dois essayer de jouer les playoffs, donc tu dois essayer de trouver une solution qui est mieux que ça. Et encore une fois, c'est pas qu'aujourd'hui. Il lance que 4 touchdowns dans 7 matchs.
C'est dommage, j'ai plus ma troule à Carolina pour le récupérer à la fin de la saison pour essayer de relancer sa carrière. C'est non, mais bon. Oui, en tout cas, vous avez raison. Globalement, je pense qu'on peut tenter quelque chose, en tout cas pour redonner un peu de vie à cette attaque. Robert Saleh l'a pas tout de suite exclu, hein, mine de rien. C'est quand même pas.
Oui, ça y est, maintenant il l'exclut plus.
Bah, changer. Ce qui est quand même. Alors, ça veut pas dire qu'il va le faire, mais malgré tout, quand un coach exclut plus ça, c'est qu'on a déjà franchi un cap. Si on compare par exemple Arthur Smith, ça fait des semaines qu'il continue à dire que Mariota reste titulaire à Atlanta, et voilà.
Après, Wilson fait passer, enfin, tu vois, genre, c'est malheureux pour les Jets et leurs supporters parce que c'est désespérant, c'est sans fin, en fait, pour eux, mais il fait presque passer Mark Sanchez pour un bon souvenir, tu vois, c'est Peyton Manning en comparaison quand tu repenses à Mark Sanchez quasiment.
Et même Sam Darnold n'est plus le plus
n'est plus si mauvais que
ouais, c'est ça.
Ces 10 dernières années.
C'est-à-dire que c'est terrifiant parce que t'as l'impression qu'ils arrivent pas à s'en sortir et que c'est toujours pire, quoi. Y a pas d'issue pour cette équipe, y a pas de bonheur pour ces gens-là, hein. C'est assez terrible.
Au poste de quarterback pour le moment, parce que pour le reste, il y a de quoi sourire.
Ils ont une défense d'élite.
Rappelons qu'aucune équipe à part les Jets, ça fait 10 ans qu'ils ne sont pas en playoff. alors que les autres, maximum, c'est 5 ans et c'est les Broncos qui ont gagné le Super Bowl. Donc, en effet, les fans des Jets n'ont pas droit au bonheur. Quoi. C'est assez terrible.
Bon, en tout cas, on saluera le courage de Zach Wilson parce que, mine de rien, on n'a pas lâché la défense. Non, non, il faut oser le dire quand tu as des mecs comme Quinnen Williams ou des trucs comme ça qui doivent faire deux fois ta taille et ton poids dans le vestiaire. Tu vois, aller leur dire calmement ça dans les yeux. Je pense qu'il y a une certaine forme de courage. Les Patriots, est-ce qu'ils ont de la chance quand même parce que tout ça cache un peu leur propre. On va pas dire catastrophe, mais en tout cas difficulté, et c'est un euphémisme offensif. Mac Jones va quand même à peine mieux. Il prend 6 sacks. Alors oui, il y a une très très bonne défense des Jets, hein, mais Mac Jones prend 6 sacks. Il manque beaucoup d'efficacité en effet dans la red zone. Non, Victor, t'as l'air de me trouver dur. Raphaël aussi.
Ouais, je suis pas si inquiet que ça. Ils produisent 300 yards. Alors oui, c'est un jour sans du kicker. Oui, c'est un jour sans en red zone. Mais globalement, je pense que 90% des matchs que tu joues avec cet état d'esprit-là, tu sors avec 20-23 points. Je pense vraiment que c'est une accumulation de mauvaises décisions dans des moments critiques qui, sur ce match, sont pénalisants. Mais je n'ai pas l'impression que ça soit inquiétant sur le long terme. On voit le retour de Damien Harris, qui est une très bonne nouvelle pour les Patriots. Après, oui, Mac Jones, bah, c'est toujours pas extraordinaire. Et il va falloir faire mieux. Il va falloir faire mieux, c'est sûr.
Raphaël, toi non plus, tu n'avais pas l'air trop inquiet.
Non, enfin, je ne sais pas si c'est de... On pourrait dire de l'inquiétude sur peut-être le plus long terme, dans le sens, est-ce que Mac Jones, c'est vraiment un quarterback capable de conduire longtemps cette équipe sur des années et de les amener loin? Là-dessus, si tu veux, je peux rester inquiet parce que j'en suis pas certain et je vois pas beaucoup de choses. Maintenant, on va dire, si on prend vraiment sur ce match et sur cette saison, t'as une ligne offensive qui a été extrêmement en difficulté. Il est quand même sous pression sur pas très loin de 25-26% de ses dropbacks, de ses passes. Bon, c'était compliqué. Il a une escouade de receveurs toujours un peu douteuse. Un Matt Patricia toujours un peu douteux dans le play calling. Disons que le tout dans le tout fait que cette attaque des Patriots, en fait, reste ce qu'elle est depuis le début de saison, à mon sens. Il y a eu une fois un éclair à un moment avec Bailey Zappi. Il y a eu un match à plus de 300 yards une fois. Et depuis, bon, bah, c'est pas terrible, mais. Heureusement, la défense se relance très bien par rapport au début de saison. La défense est en train de remonter en très, très grande forme.
Ouais.
Et ça peut les amener à aller titiller une place en wildcard.
Mathieu Judon, qui fait encore un sac et demi et qui est un prétendant au titre de défenseur de l'année discret, on va dire. Il n'est pas dans le haut du classement, mais il fait partie des prétendants discrets. Bills 31, Browns 23, match délocalisé à Détroit pour cause de neige. On était donc en dôme, ce qui change quand même pas mal de choses. Début de match un peu compliqué pour les Bills. Finalement, ils se sont détachés avec un touchdown juste avant la mi-temps, des points sur toutes les possessions après la pause. Et la nouveauté, 171 yards au sol. Ça, c'est intéressant, Raphaël.
Ouais, alors... C'est intéressant parce qu'effectivement, on l'a pas beaucoup vu cette saison. Après, je reste. C'est tellement rare, on va dire, jusque-là. Et c'est face à une défense de Cleveland qui n'y est plus, ou qui n'y est pas cette saison, du moins, et notamment contre la course. Donc, c'est toujours pareil. Ce genre de performance demande à être répété pour se dire OK, il y a un déclic dans le jeu au sol et ça va enchaîner. Là, c'est encore un peu trop un épiphénomène à mon sens. Oui, ça court pas mal, notamment Cook, hein, qui parce que Singletary ces dernières semaines était quand même globalement tout seul au sol. Là, il a un peu de soutien et c'est pas mal parce que je pense pas que Singletary soit du niveau d'un Nick Chubb, d'un Derrick Henry qui puisse porter un jeu au sol. Pour moi, c'est un coureur de comité. Donc, si tu arrives à trouver un deuxième joueur à ce niveau-là, ça peut finalement aider. Le jeu au sol de Buffalo à 6 mètres, donc à surveiller. Ça peut être une bonne nouvelle. J'attendrai avant de dire que ça l'est. Quoi.
Et 86 yards pour Singletary, 86 yards pour James Cook, seulement 3 courses pour Josh Allen. La bonne nouvelle, c'est aussi que ça évite que Josh Allen aille courir trop et prenne trop de taquets. Ça, c'est quand même une bonne chose. Grosse prestation défensive quand même aussi, hein, pour Buffalo, en limitant Nick Chubb à 19 yards sur 14 courses. Victor, on peut résumer aussi en disant qu'ils ont, gagné la bataille dans les tranchées. Ils ont gagné le défi physique sur ce match.
Oui, bah, les Bills ont un peu fait ce qu'on attend d'eux cette saison et ce qu'ils n'ont pas toujours fait cette saison. C'est-à-dire, à un moment, tu es en difficulté, tu es entre guillemets un peu au pied du mur. Et puis finalement, comme tu es la meilleure équipe, tu accélères, tu pilonnes, tu fermes les vannes en défense et puis tu gagnes finalement ce match assez tranquillement. Enfin, je veux dire, à la deuxième mi-temps, globalement, ils ont été en contrôle de A à Z. Je suis un peu étonné qu'on utilise enfin James Cook au moment où on trade pour Naeem Hines. Mais enfin, ça, c'est une autre chose. James Cook, qui, on le rappelle, frère 2, et qui est autant une arme à la course qu'à la passe. Non, c'est bien. S'ils arrivent à diversifier cette attaque, ça va faire du bien. Josh Allen a pas lancé d'interception. C'est pas une. Enfin, vu ces dernières semaines, ça reste psychologiquement, c'est bien de faire un match propre comme ça. Donc voilà, Brissette n'a pas démérité d'autre côté, mais la réalité, c'est que les Browns, ils ont joué vraiment qu'une mi-temps, quoi. À partir du moment où on parle souvent en football classique du but dans les arrêts de jeu, bah, à partir du moment où les Bills passent devant à 10 secondes de la mi-temps, tu as l'impression que ça leur a mis un coup psychologique et qu'ils s'en sont jamais relevés, quoi.
C'est Browns pour l'instant, maintenant.
Quand même juste. Ah, oui. Pardon.
Vas-y.
J'ai un petit peu. Le retour de Matt Milano fait beaucoup de bien à cette défense de Buffalo, quand même.
Ah, bah oui, ça, c'est sûr.
Pour le coup.
Et de Jordan Poyer aussi. Bon, il manquera toujours Micah Hyde qui
ça revient au bon moment, saison, aussi. Mais...
Ouais.
À l'inverse, donc, je disais, les Browns, leur défense est très, très loin d'être très, très loin des meilleurs, malgré ce qu'on attendait au début de la saison. Du coup, c'est une saison qui est un peu perdu. Je vous aurais bien dit, on attend le retour de Deshaun Watson pour se roder pour la saison prochaine, mais le problème a même plus l'air d'être offensif, en fait, pour Cleveland, parce que tu l'as dit, Victor. Brissette fait un match qui est correct, hein, 324 yards, 3 touchdowns, aucune interception. On ne pouvait pas lui en demander beaucoup plus.
Bah oui, le truc, c'est qu'avant le début de la saison, on se disait, bon, bah, les Browns, ils ont une défense, ils ont un jeu de course, il ne leur manque plus que le quarterback. Bah là, comme tu dis, le vrai problème, c'est qu'il leur manque une défense, quoi. C'est tout le monde sous-performe. T'as vraiment l'impression, bah, à part Max Garrett qui est un peu tout seul sur son île et qui continue à être un des meilleurs joueurs de la ligue, hein, ça, il y a aucun problème, il y a aucun problème pour lui donner ça. Mais je veux dire, même Ward, Denzel Ward ou Grant Delpit ou ce genre de joueurs dont on attendait beaucoup, bah, clairement ils sont aux fraises. Les défensifs tackles, t'as l'impression que de toute façon, comme disait Raphaël, hein, je ne sais pas si c'est représentatif pour Ibis, parce que t'as l'impression qu'il suffit juste de faire courir le running back entre les deux défensifs tackles et ça va passer. Donc oui, l'inquiétude principale de cette équipe, c'est la défense pour moi.
Steelers 30, Bengals 37, première victoire, une victoire difficile mais importante pour les Bengals, leur première dans la division. Ils étaient menés 20-17 à la pause et puis leur attaque a marqué 2 touchdowns pour prendre le large dans le quatrième. Est-ce que c'est important de voir Joe Burrow persister dans les airs, utiliser plus de cibles pour l'emporter, distribuer un peu plus, Raphaël?
Ouais, je sais pas si c'est je sais pas si c'est si important que ça. Il l'a quand même fait par le passé. Il l'a fait par le passé. Il avait quand même, l'an dernier, il se reposait aussi. Alors oui, il y avait bien sûr l'entente avec Jamar Chase, mais il y avait aussi T. Higgins quand même. Joe Mixon, des fois, sortait en sortant de la boîte. Ouais, peut-être, il le fait peut-être encore un poil plus. Après, je ne suis pas sûr que ça change.
En tout cas, ils avaient perdu contre Pittsburgh cette saison. TJ Watt a encore été super avec une très belle interception. Donc, c'est pas une victoire anodine, quand même, mine de rien, pour Cincinnati. Victor, je disais, ça n'a pas été facile. Il est intercepté 2 fois, hein, Joe Burrow, quand même.
Oui, alors pour avoir couvert le match, ils doivent le gagner bien avant. C'est plutôt Cincinnati qui laisse les Steelers dans le match en faisant trop d'erreurs bêtes. L'interception de Watt, bon, c'est un très beau mouvement de Watt, mais elle ne doit pas avoir lieu. La première est un peu discutable aussi. Il y a des choix qui ont été discutables. Et puis, il y a une sortie de Joe Mixon qui a fait mal aussi parce que, globalement, Perrine dans les airs fait un bon match. Il prend 3 touchdowns. Mais par contre, au sol, tu sentais que ça manquait totalement de vitesse et d'explosivité. Et du coup, sans jeu de sol, bah, ils ont été obligés d'être un peu caricaturaux à faire course sur course, passe sur passe sur passe sur passe. Heureusement, T. Higgins était dans un grand match. Et de l'autre côté, on va dire qu'ils n'ont pas démérité, les Steelers. Enfin, je veux dire, Pickett, Najee Harris, George Pickens, ils font un match honorable, largement. Mais bon, la réalité, c'est que c'est aussi gonflé par cette fin de match où il y a 37-23, ils marquent un touchdown à la fin, etc. Cincinnati n'a pas vraiment tremblé. Les Steelers ont joué vraiment qu'une mi-temps, la première. Et là encore, la deuxième, ils n'avaient plus de jus. Donc, tu sens que c'est une équipe qui a encore besoin de travailler. Parce que voilà, le coaching n'est pas toujours inspiré en attaque. Et en plus, les joueurs n'ont pas forcément, en tout cas aujourd'hui, la capacité de faire un match complet sur 60 minutes.
Raphaël, Kenny Pickett gagne quand même pas mal de yards. Il y a une entente avec George Pickens. Il y a encore 102 yards au sol. Il y a toujours des Ça se développe quand même du côté de Pittsburgh.
Oui, non, ça se développe. N'oublions pas que Pickett commence sa carrière avec un calendrier très très dur. Hein. Vraiment, il a affronté des sacrées équipes pour commencer, les Bills, les Bengals. Rien lui est épargné sur ce début de carrière. Donc, et il s'en sort de manière honorable. Il n'y a pas vraiment de coup d'éclat ou de flash pour le moment, mais il n'y a rien de catastrophique, ce qui est peut-être pas si mal comparé à d'autres par le passé. Et après, Victor l'a mentionné, mais je pense qu'il est aussi très limité par son coordinateur offensif Matt Canada, qui est assez compliqué. Et cette ligne offensive également, on l'annonce en difficulté, elle est en difficulté. Bon, voilà, c'est une attaque qui a des jeunes joueurs intéressants. Il faut continuer à travailler, à progresser. J'espère que, parce que c'est le problème un peu avec cette franchise de Pittsburgh, c'est que des fois elle est très conservatrice, notamment dans son staff, dans sa capacité à garder les gens très longtemps. J'espère qu'ils vont un peu plus oser se séparer de Canada et aller chercher quelqu'un qui puisse faire passer un palier à Pickett, parce que ça me semble être la marge de progression pour la saison prochaine, en fait.
Ravens 13, Panthers 3, un match beaucoup plus serré que prévu, 3 partout au début du dernier quart. Puis les Ravens ont arraché 3 ballons pour faire la différence dans la dernière période, avec un field goal de Justin Tucker, puis un touchdown de Lamar Jackson. Les Ravens qui s'en sortent avec seulement 308 yards au compteur. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise performance en attaque, vu le matériel autour de Lamar Jackson, qui n'est pas fabuleux? Bon, on peut dire que c'est une victoire, il n'y a aucune victoire facile.
Oui. Non, il n'y a pas de victoire facile en NFL, on le voit cette saison avec quand même pas mal de surprises. Ce n'est pas un bon match offensif pour grand monde, notamment le jeu au sol des Ravens qui a été pas mal embêté pendant un certain moment. Bon, après, on l'a déjà dit cette saison, hein, mais quand tu finis avec Demarcus Robinson en atout numéro 1, c'est quand même compliqué pour se projeter sur la suite. Alors oui, j'entends, il y a Mark Andrews hein, qui est quasiment un receveur, qui est presque plus un tight end, j'entends. Mais enfin, quand on compare à d'autres joueurs dans la ligue, ça me semble un peu le casting autour n'est pas terrible. Et puis après, Lamar n'est pas exemple de tout reproche non plus. Donc c'est une attaque de Baltimore qui est en... Ouais, en... c'est compliqué à décrire, mais...
Eh bien alors, c'est bien que tu dises compliqué à décrire, parce que c'est pour ça qu'on en a fait le thème de notre débat de la semaine. Vous nous réentendrez en parler des Ravens avec Victor dans l'émission preview, parce que c'est vrai qu'on va se demander un peu quel est leur niveau réel, parce qu'ils sont compliqués à lire, Victor.
Oui. Non, offensivement, ça a été un mauvais match. Hein. Je veux dire, on peut dire blessure de Batman, peu de cible ou quoi. Ça n'explique pas que tu sois aussi à la peine à la course face à la défense des Panthers, qui est belle sur le papier, mais sur le terrain qui n'est pas depuis le début de la saison. Sur le plan de la red zone, encore, il y a des plays qui sont discutables. Mais clairement, par contre, la défense commence à vraiment atteindre un niveau assez énorme. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que la dynamique et l'arrivée d'un joueur comme Roquan Smith rend meilleur d'autres joueurs. C'est-à-dire que Kyle Hamilton, premier tour safety, qui était mauvais en début de saison, il devient plutôt très bon. Patrick Quinn, qui est lui aussi un ancien premier tour de la draft d'avant, qui était un peu une déception, même si, enfin, toute proportion gardée, mais depuis son arrivée dans la Ligue, là, depuis 3-4 semaines, il joue à un niveau rarement vu. Enfin, on a l'impression que tout ce groupe commence vraiment à prendre. On rappelle qu'ils ont perdu Martin Dane hein, en début de saison de coordinateur défensif, donc il faut quand même du temps pour recréer un noyau, un système, etc. Ben, là, ils sont arrivés à maturité défensivement. Il faut que l'attaque réponde maintenant avec des performances qui permettent d'atteindre un haut niveau. Mais là, je n'ai pas beaucoup de doutes sur la capacité défensive des Ravens.
Ils ont donc utilisé le plan de jeu parfait, Raphaël, c'est-à-dire priver les Panthers de jeu au sol et puis hop, c'est fini.
Oui, non, mais globalement, effectivement, c'est l'avantage cette saison quand tu joues les Panthers. Si tu arrives à faire ça, tu bloques cette attaque, et notamment depuis qu'elle est reprise en main par Baker Mayfield, qui n'arrive d'ailleurs, et c'est marrant, mais depuis que Baker Mayfield remonte sur le terrain, DJ Moore redisparaît à nouveau. Les deux sont vraiment désynchronisés de manière assez catastrophique. Donc ça fait forcément pas de bien à cette attaque. Bon, voilà, les Panthers, il y a le changement de coach en milieu de saison, carrousel de quarterback inutile. Voilà, il faut repartir à zéro
Ça va être, ouais, ça,
oui, voilà.
Ça va être un grand chantier hein, pendant l'intersaison, que ce soit pour le coach, pour le quarterback. Mayfield a été intercepté 2 fois. Et je disais, le jeu au sol stoppé, c'est que Donta Foreman a 11 courses pour 24 yards et Chuba Hubbard a 4 courses pour 0 yards. Donc comme ça, ça a été vraiment très, très bien stoppé par Baltimore. Les Broncos contre les Raiders, on disait que c'était le disaster ball dans la preview, 16 pour les Broncos, 22 pour les Raiders, un field goal à 16 secondes de la fin pour égaliser, un touchdown de Davante Adams sur le premier drive de la prolongation pour l'emporter, les Raiders ont gagné. Alors il y a deux hochements de tête très différents. Raphaël, il hoche la tête pour faire genre oui, et Victor il hoche la tête de dépit comme ça. pourquoi es-tu triste comme ça, Victor?
Parce que si les Broncos avaient réussi à gagner ce match qu'ils avaient en main, je serais actuellement leader des pronos TDR.
Ah oui, forcément, ouais. Forcément.
À quoi voilà tout ça joue.
Non, par contre, moi, il y a un truc qui m'a totalement surpris. C'est qu'en fait, en début de match, on a des Broncos qui sont transfigurés. Ils marquent 10 points sur leurs 2 premiers drives, je crois, hein, pour le coup. Et même le 3e, c'est un field goal manqué, mais ils avancent, quoi. Et on commençait à se dire dans le chat, alors moi j'étais sur le Steelers Bengals, mais on regarde aussi un peu la Red Zone, et on commençait à se dire, eh ben le changement de play calling, ça fait du bien, cette équipe elle est en train de trouver un vrai rythme, cette équipe elle commence à performer, attention, est-ce qu'on va enfin avoir les Broncos, etc. Ben non, ils sont retombés dans leur travers en deuxième mi-temps, et c'est même pas, y a des interceptions ou machin quoi, non, il n'y a pas d'interceptions. Alors oui, il y a un fumble coûteux, mais enfin c'est surtout nul quoi. Enfin il y a un moment, c'est juste il y a pas d'imagination, il y a rien. Melvin Gordon qui était plus sur le terrain, qui redevient titulaire, qui maintenant se fait couper. Donc tu te retrouves avec Latavius Murray en titulaire.
Je me suis réveillé ce matin en me disant mais enfin ouais. La blague Melvin Gordon est terminée. Je ne comprenais pas que ce mec là ait toujours des opportunités.
Bah surtout quand tu vois sa capacité. Oui, quand tu vois sa capacité à faire des fumbles en red zone, il a quand même un petit souci là-dessus.
Ah ouais.
C'est assez étonnant qu'il ait pu rester aussi longtemps.
Ma théorie, c'était vraiment qu'il vivait encore sur la gloire de sa carrière universitaire, parce que si je me rappelle bien, c'était vraiment un très très grand coureur universitaire, non, même pas.
Non, mais il a fait quand même 2 bonnes saisons aux Chargers, au point que les Chargers voulaient le signer comme numéro 1 et qu'il a fait grève parce que le contrat n'était pas au niveau de ce qu'ils attendaient.
Oui,
ce qui a permis à Ekeler de devenir titulaire.
Ça a rendu service aux Chargers, hein, parce que franchement...
De mémoire,
à l'époque, je ne comprenais même pas déjà pourquoi il voulait un si gros salaire. Attends, c'était quoi? Ouais, non, mais ça va, excusez-moi. Première saison, 641 yards. Deuxième, 997 yards. Il a une seule saison à plus de 1 000 yards dans sa carrière, où il fait 1100 yards, 1105 en 2017.
Effectivement le cas Gordon, mais comme dit Victor, c'était un peu terrible de ce côté où tu dis ok, Denver a peut-être trouvé le déclic et finalement tout s'effondre à nouveau sans réelle explication hein, parce que comme il le dit, il n'y a pas de turnover particulier en dehors d'un, mais c'est juste ça marche pas. Russell Wilson prend beaucoup de pression, prend pas forcément les bonnes décisions. Donc
Clint Kubiak ne sera pas le sauveur de cette attaque, hein, lui qui a appelé les jeux pour le moment. Ils avaient quand même en effet le ballon avec 3 minutes. Et ils avaient aussi le ballon avec 3 minutes 05 à jouer, donc et 3 points d'avance. C'était censé tuer le match à ce moment-là. Ils le rendent en moins d'une minute 30.
Ah bah, avec le classique course plein centre. Oh mince, 3e et 10, on fait une passe. Bon bah, ok.
Voilà. Et puis on rate la passe pour arrêter le chrono, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle.
Le coach a un peu bâché Wilson. Oui. En disant qu'en gros, il lui avait dit soit tu complètes ta passe, soit tu prends un sac, mais si tu n'es pas à 100% sûr de compléter ta passe, tu ne lances pas. Et en effet, tu vois que la passe, de toute façon, elle n'a quasiment aucune chance d'être complétée. Donc, il aurait mieux fait de prendre le sac.
Tu comprends, Wilson, il n'en a pas pris beaucoup des sacs dans sa carrière, donc il soigne la stat. Je ne voudrais pas en mettre un de plus. Bon, en attendant, Davante Adams a mangé tout ce petit monde avec 7 réceptions, 141 yards, 2 touchdowns. Il a complètement mis Patrick Surtain dans le vent sur le touchdown de la gagne. Je crois qu'il y a 11 yards de séparation. J'ai vu les stats avancer. Donc 11 yards, bon, ça fait à peu près. T'es à l'aise pour capter ton ballon.
Normalement, ouais.
Tu peux te retourner, tu peux prendre un café, l'attraper à une main et puis repartir.
Après, c'est presque là où tu fais le drop parce que c'est tellement évident
c'est
que.
Bon, après, c'est Davante Adams quand même, donc il n'y a pas eu de drop. Derek Carr fait 307 yards de touchdown. C'est très Davante Adams dépendant.
Comme depuis 2 semaines.
Voilà, il y a encore des pénalités, il y a encore un manque d'efficacité. Hein. Parce qu'ils ont 407 yards, donc en théorie, ce match, ils auraient pu le plier avant. Mais ils prennent 9 pénalités, mais il manque toujours d'efficacité. on n'apprend pas grand-chose sur ces Raiders, j'ai envie de dire, qui sont à 3 victoires maintenant, mais qui seront très loin de la course aux playoffs.
Ouais, c'est ça. Comme tu dis, on n'apprend pas grand-chose. Ils se basent là sur depuis deux semaines sur le sursaut de Davante Adams, qui avait une petite période de creux après son premier bon match, on va dire. Donc tant mieux, parce que ça fait vraiment avancer les chaînes pour le coup. Ça, c'est assez incontestable. Mais oui, après, et finalement, ce problème en red zone, il est pas si étonnant. Davante Adams, ça a jamais été son point fort, les touchdowns et la red zone. C'est pas forcément des meilleurs receveurs, on va dire, dans les 10 derniers yards. Donc, ça peut aussi coïncider un peu avec ce blocage. T'as un Darren Waller qui est plus là au poste de tight end, Hunter Renfrow aussi. Mmh. Et les blocages peuvent venir un peu de là. Après, il reste beaucoup de problèmes, beaucoup de pénalités. Le coaching de McDaniels, il n'utilise qu'un coureur. Moi, je reste un peu. Alors, je dis pas que tout le monde doit avoir des comités de coureurs en NFL, mais quand tu donnes aucune portée à aucun autre coureur, ça m'inquiète un peu pour le régime de ton quarterback de ton running back d'ici la fin de saison. Bon, voilà. Et heureusement qu'en défense, il y a Max Crosby, heureusement, parce que sinon, pareil, c'est vraiment. C'est loin. Non, mais t'as raison, c'est loin. J'aurais dû dire, t'avais raison dès le début, dire oui, la saison va être longue.
La saison va être longue. Petite pause et le reste des matchs.
Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On enchaîne avec la deuxième partie des matchs et notamment ce qui s'est passé dans la NFC. Vous avez vu qu'on a commencé par beaucoup parler d'AFC. La victoire des Eagles sur les Colts, 17 à 16. Les Eagles n'ont mené que 80 secondes, les 80 dernières secondes. 80 qui ont suffi donc au bonheur de Victor Roulier. Touchdown de Jalen Hurts à 1 minute 20 de la fin pour prendre l'avantage. La défense qui stoppe Indianapolis derrière. Ça a été difficile pour Philadelphie, Victor. Mais est-ce que c'est pas bien de souffrir un petit peu parfois?
Victoire sereine. Victoire sereine. Non, évidemment, ça a été difficile. Je pense que ça a été clairement le plus mauvais match de la saison en termes de play call offensif. Jalen Hurts a été plutôt bon, mais alors on a eu un truc qui est assez, qui était très habituel l'année dernière et assez inhabituel cette saison. C'est si tu as une troisième ou une quatrième à moins de 5 yards, tu cours. Mais alors, toujours la même course, hein, surtout ne pas alterner, toujours cette course plein centre, voilà. Donc, il y a eu un vrai problème de play call offensif. Jalen Hurts a un peu surnagé dans ce marasme et a fini par sortir cette équipe du piège Indianapolis. C'est surtout la défense qui a maintenu ce match pendant toute la partie, quoi. Donc, c'est surtout la défense qui doit être mise en avant. Et quand même, le truc qui n'était peut-être pas attendu, c'est que peut-être deux des meilleurs défenseurs de ce match, c'est Ndamukong Suh et Linval Joseph, qui venaient d'être signés respectivement 48 heures et 24 heures avant. Alors, Suh, bon, il était déjà bon l'année dernière, on savait qu'il avait encore des réserves, mais alors, Joseph, on ne l'a pas vu comme ça depuis 2017-2018. Bon, on attendra, hein. C'est qu'un match. Mais en tout cas, on va dire que la défense a tenu le coup et que Jalen Hurts a fini par débloquer le match.
Bon, Ndamukong Suh, Linval Joseph, c'est de la signature futée. On sent les équipes en mode on gagne maintenant. Hein. Mais pourquoi Suh est toujours disponible d'ailleurs?
Alors, je crois qu'au début de la saison, c'est parce qu'il demandait 8 ou 9 millions. Parce qu'en gros, sa mère et sa femme lui avaient dit tu rejoues pas ou un truc comme ça.
Okay.
Et finalement, là, il s'est dit bon, quand même, c'est une équipe qui peut gagner le Super Bowl, je vais y aller. Quoi.
Mais ça, c'est le spécial Suh depuis 4-5 ans maintenant.
Oui, il signe. Ouais.
Toujours prendre l'équipe qui va au Super Bowl parce qu'il a joué pour les Buccaneers, il a joué pour les Rams.
En attendant, Suh, ce qui est assez incroyable, c'est que dans sa carrière, il a loupé 0 match sur blessure. C'est un mec, t'as l'impression qu'il est inoxydable.
Ah bah, il ne connaît pas la douleur.
C'est un vrai vétéran qui apporte beaucoup. Franchement, c'était une signature très intelligente comme ça, un peu à l'arrache. Et l'effet, comme tu dis, est-ce que ça va tenir toute la saison, cet effet avec ces deux nouveaux defensive tackles? Je ne sais pas, mais en tout cas... Avec ce match-là, je n'ai pas trop de mal à y croire. Mais oui, ça a servi, clairement.
Très fort, parce qu'ils ralentissent bien Jonathan Taylor après un gros début de match, Victor.
Oui, mais de toute façon, il n'y a que Suh qui en soi doit durer, hein, parce que Joseph, il est là que pendant que Jordan Davis est blessé. Hein. Quand Jordan Davis revient, il va sur le banc. Non, mais globalement, je pense que de l'autre côté, parce qu'on peut tirer le chapeau à la défense d'Eagles, on peut aussi dire que cette attaque d'Indianapolis, elle a eu 1 million d'opportunités et elle a été aussi totalement amorphe. Parce qu'ils mettent 7 points sur le premier drive. Et derrière, globalement, C'est une tannée ce match. Hein. Matt Ryan, il a plus de bras, il a toujours un cerveau, mais il a plus de bras. Jonathan Taylor revit un peu, mais enfin, c'est quand même pas. Voilà. Et en plus, il loupe un field goal qui leur aurait donné 9 points d'avance. Hein. Enfin, en tout cas, qui leur aurait donné 3 points de plus. Donc voilà, mais clairement, on va dire que c'est pas rassurant pour les Eagles, mais une victoire, c'est une victoire. Par contre, les Colts, ils redeviennent un peu les Colts. Il y a eu une semaine de « Oh là là, vous avez vu finalement les Colts, nouvelle dynamique. »
Ah, t'es un peu dur.
Ouais, je te trouve un peu dur.
T'es un peu dur. Il y a trois semaines, un mois, vous leur auriez collé 20 points d'écart. Hein.
Ouais, sans, en défense quand même, en défense, ils sont accrocheurs sur
défense,
ce match.
C'est mieux. En défense,
Mieux, oui. Et oui. Ces dernières semaines, même avec Reich, même la défense est en difficulté.
C'est vrai.
Je trouve qu'il y a… Je suis d'accord, c'est pas incroyable, mais malgré tout, il y a un poil de mieux en défense, c'est mieux. Mais en attaque, je trouve qu'il y a un peu de mieux sur la ligne offensive malgré tout. C'est pas une grande prestation, mais la ligne offensive est quand même un peu mieux. Je trouve que globalement, il y a plus d'envie, il y a des joueurs qui savent un peu vers quoi ils vont et ce qu'on leur demande. Après, oui, ça sera peut-être pas suffisant pour être un grand coach, hein, mais
ils jouent au niveau de ce qu'ils ont.
Aussi.
Tu vois, pas dingue, comme tu dis, la ligne offensive est correcte, voilà, Matt Ryan n'a pas de bras, etc. Mais au moins, ils ne sont pas lamentables comme ils ont pu l'être, en fait, par moment cette saison. C'est pour ça que je te trouvais dur aussi. Hein.
Oui, certes, mais bon, voilà, c'est une équipe qui gagnera pas beaucoup de matchs d'ici à la fin de la saison.
Non, mais bon, voilà. Ngakoue a un sac et demi, il fait son meilleur match hein, depuis qu'il est arrivé. C'est une des petites éclaircies. Si vous vous demandiez où était Yannick Ngakoue, bah, il est au Colts hein, depuis le début de la saison. Les Cardinals 10, 49ers 38, c'était à Mexico. Les Niners n'ont fait qu'une bouchée des Cardinals. Il y avait 17-10 à la pause, mais 31-10 après le troisième quart. 153 yards après réception pour les joueurs des 49ers, soit 40% de leurs yards au global quasiment. Ils donnent le ballon à leur playmaker et ça marche. On résume ça comme ça, Raphaël ?
Bah, c'est ça. Donc, en plus, ils affrontaient une défense d'Arizona où il y a quelques blessés. Et quand les skill players de San Francisco, parce que de toute façon, cette attaque est basée sur ces skill players, sur cette capacité à gagner des yards après réception, après contact, etc. Donc, quand tout marche comme ça, bah, c'est une attaque qui est quand même très, très dure à stopper parce que les solutions sont assez, assez nombreuses. Ça peut venir d'un peu partout, d'un peu tous les sens. Et tu as même Elijah Mitchell qui, au sol, est ressorti un peu de nulle part pour suppléer, donner un peu de repos à Christian McCaffrey. Pour comme ça, en plus, tu peux utiliser McCaffrey ailleurs. Non, bah écoute, quand ça roule comme ça, c'est une équipe qui peut être… Et comme la défense a vraiment progressé, je trouve, par rapport à l'an dernier, c'est une équipe qui est assez redoutable pour la NFC, qui est assez redoutable.
Tu parlais tout à l'heure de faire courir qu'une seule personne du côté des Raiders. Eux, c'est l'inverse. Ils ont 159 yards au total répartis sur 28 courses et ils n'ont pas un seul coureur à plus de 9 courses. Donc, c'est extrêmement bien réparti. Garoppolo joue encore dans un fauteuil à 228 yards, 4 touchdowns, aucune interception, aucun sac. J'ai dit qu'ils avaient fait beaucoup de yards après réception. C'est aussi parce que les Cardinals sont la pire défense de la ligue sur les yards après réception. Donc là, forcément, ils étaient vraiment tombés sur le match idéal. Est-ce que aussi, au final, on dit souvent c'est un match Niners, c'est-à-dire ça a bien couru, ça a bien défendu, Garoppolo était dans un fauteuil, etc. Dans l'ensemble, on a l'air de connaître leurs forces et leurs faiblesses. Est-ce que quand tu regardes ce match-là, Victor, toi, tu les trouves plus solides au final que des Vikings ou des Giants qui ont un bilan supérieur pourtant ?
Largement, je pense que c'est une équipe qui s'est plantée au début de saison, hein, défaite face aux Bears dans un climat, défaite face aux Broncos et tout. Ok, ils ont eu du mal à démarrer, mais enfin, c'est ce que je disais dans un autre podcast la semaine dernière, mais je vois pas bien ce qu'ils ont à envier aux Eagles, aux Cowboys, aux Vikings. Je pense qu'ils sont prétendants à la NFC au même titre que les trois équipes que je viens de citer et peut-être les Buccaneers s'y retrouvent une dynamique. Mais clairement, cette équipe, quand elle déroule, elle est globalement inarrêtable. Après, c'est une équipe dont on voit parfois que ça ne démarre pas, comme face aux Falcons, là, quand ils perdent 28-14, où le truc ne démarre jamais. Bon, il y a des matchs comme ça où ça ne démarre jamais, et ça a pu leur coûter des playoffs ou autre. Mais quand ils déroulent, bah, écoute, c'est absolument inarrêtable. Et ça peut, ça part de partout. Quoi. Donc, c'est un peu comme… De toute façon, c'est la Pat Shanahan, hein. C'est les Falcons de 2016, c'est ces équipes-là qui, une fois qu'elles démarrent, sont inarrêtables dans l'attaque.
Il a même encore plus de skill players qu'à l'époque des Falcons. Hein.
Bien sûr, bien sûr.
Quarterback peut-être un peu plus limité, mais...
Ouais, il y avait quand même Julio Jones, Roddy White...
Non, au jeu de course, je pense, tu voulais dire.
Oui, ouais, et puis c'est des joueurs plus polyvalents, peut-être.
Ouais, c'est ça, plus polyvalent quand même. Je trouve qu'il y a un peu
C'est
plus
vrai.
de match-up potentiel et de mismatch, comme on dit, de vraiment de possibilité d'aligner des skill players face à des défenseurs pas forcément capables de les couvrir ou de les défendre, quoi.
C'est donc
Et
à peu près,
là.
oui, j'allais dire, c'est
Pardon.
à peu près ce que les Cardinals n'ont pas pour faire la transition.
Oui, mais je voulais juste dire qu'en plus, ce qui change, c'est que l'année dernière, on avait déjà vu Deebo Samuel, mais cette année, c'est l'explosion de Ayuk qui fait du bien, qui permet de diversifier vraiment ça. Mais tu lançais sur les Cardinals. Bah, écoute, vivement la fin de saison. Vivement la fin de saison. Globalement, ils ont DeAndre Hopkins. D'accord.
On rappelle que c'est
Ils...
Colt
Oh,
McCoy, hein,
Dortch,
qui
c'est
jouait.
pas inintéressant,
Ils ont
Dortch.
Dortch. Ouais, je suis d'accord. Donc, ils ont deux receveurs. Bon, voilà. Je crois que Rondale Moore se blesse encore dans ce match-là. Donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures à force. La défense est toujours sous performe comme toujours. L'attaque n'est absolument pas dangereuse, que ça soit Kyler Murray ou que ça soit Colt McCoy ou que ça soit, à mon avis, n'importe qui. Je pense que c'est l'équipe la plus mal coachée de cette ligue. Et vivement, vivement la saison prochaine avec un nouveau coach, parce que là, ça devient pénible à voir.
Oui, et puis vu que tu as donné le gros contrat à Kyler Murray, il n'y a vraiment pas de suspense. Hein. C'est le quarterback ou le coach, vu que tu viens de
Ah
donner le
bah
contrat au
oui, de toute façon,
quarterback,
Murray, il a le contrat. Donc,
il
faut
va.
juste qu'ils évitent de sortir des. C'était quoi, des Call of Duty pendant la saison? C'est
Alors,
apparemment, c'est.
explique ça, parce que pas de private joke
Non,
ici,
mais.
monsieur.
C'est une sorte de mème sur Internet, parce qu'il a la réputation de jouer beaucoup à la console. Et c'était ressorti quand il y avait eu cette fameuse clause dans le contrat qui devait regarder des vidéos de match au moins 4 heures par semaine. Et je crois qu'il y a un nouveau Call of Duty qui est sorti. Ouais, pardon, une extension.
Non, mais j'en sais rien. En
Voilà.
vrai, je dis ça,
Mais,
mais je suis même pas sûr.
enfin bon,
Hein.
il y a un nouveau Call of Duty qui est sorti. Et du coup, il y en a qui disent, ah là là, il se blesse juste au moment où le jeu sort. Mais non, mais en vrai, je pense pas qu'il y ait vraiment de lien de cause à effet. Je pense juste qu'en effet, tu dis, avec le contrat qu'il a, de toute façon,
N'y a
tu es
pas le choix.
bloqué avec Kyler Murray pendant 3, 4 saisons. Donc, t'as que à espérer que Kyler Murray redevienne Kyler Murray avec un nouveau coach, par contre.
Allez, prenez un autre coureur aussi au passage. Après Melvin Gordon, c'est James Conner maintenant qui est sur ma liste.
Bah, ça dépend. Dans un comité, en tant
Ouais,
que
dans un
buffle,
comité,
non,
ouais.
il peut jouer le buffle dans un comité, dans la end
Suis
zone et
d'accord.
tout. Mais c'est juste que là, il est utilisé littéralement partout,
Bah oui, non, mais
ce
il
qui ne
leur faut
devrait pas
quelqu'un
être le
d'autre,
cas,
quoi.
quoi.
Il leur faut quelqu'un d'autre. Bon, Texans 10, Commanders 23, un seul first down pour les Texans en première mi-temps. Le jeu au sol complètement bloqué, il termine avec 148 yards. Bon, après, au moins, avec eux, c'est pas comme les Jets, on n'en attend rien. On 148, on est là, genre,
Assez
bon,
constant,
ouais. Il
hein.
y a du bon boulot de la défense de Washington, quand même, évidemment. Mais il y a une équipe de Houston qui a la dérive complète. On peut les expédier, eux, avant de parler de Washington. Dameon Pierce est à 8 yards en 10 courses, hein, ce qui nous fait une belle moyenne de 0,8 yards par course. Donc, je reprends la théorie du s'il tombait en avant à chaque snap, ça serait plus loin. 5 sacs pour Washington, 7 pressions sur le quarterback et 3 sacs pour Jonathan Allen. On peut même d'ailleurs embrayer directement comme ça sur Washington. Cette défense, elle commence quand même à prendre du volume, Raphaël.
La ligne défensive notamment, c'est surtout
Ouais.
ça qui est important parce que l'an dernier, ce qui avait posé problème l'an dernier, enfin en partie l'an dernier, et ce qui posait problème en début de saison en défense, c'était cette ligne défensive qui n'arrivait pas à être si dominante. Et avec des cornerbacks, des safeties parfois un peu justes, ça matchait pas totalement. Là, à partir du moment où depuis 3-4 semaines, je trouve, la ligne défensive domine tous ses adversaires globalement. Et ben ça change l'équation parce que ça rend le boulot plus facile pour le reste de la défense et ça se voit. Et les Jonathan Allen, les Montez Sweat, les Daron Payne, tout le monde est en train de performer. Donc c'est ce qui donne le bol d'air à cette défense et je dirais même à l'attaque parce que du coup de l'autre côté l'attaque a pas forcé à courir pour aller gagner le match. T'as juste à essayer de manager, j'ai envie de dire, ce que les opportunités que ta défense te donne. Donc, ouais, ça marche bien. Alors après, je continue à penser que c'est trop limité pour faire quoi que ce soit. Mais c'est positif parce qu'ils reviennent d'un peu loin quand même.
Mais il y a une vraie identité, Victor, au sens où maintenant cette défense va mieux, le jeu au sol est posé, Taylor Heinicke est là pour gérer, et ils ont leur identité. Et ils gagnent, ils sont positifs, hein.
Oui, moi je pense qu'ils seraient en AFC, bon, mais en NFC, ils peuvent tout à fait accrocher les playoffs. Je veux dire, ils sont à 6-5, ils ont gagné 5 de leurs 6 derniers matchs. Ils jouent propre, c'est pas spectaculaire, mais ils jouent propre. La défense va bien, en plus, sur l'ajout de Chase Young qui revient cette semaine, là, il a été activé,
Pas
ça
sûr
y
qu'il
est.
joue tout de suite, par contre.
Ah bon, d'accord.
Ils doivent le sortir de la liste pour pas qu'il reste bloqué, mais.
D'accord, ok. Et je trouve que il y a des joueurs quand même qui commencent à sortir un peu du lot. Darrick Forrest, safety, qui devient vraiment intéressant. Enfin, tout ce groupe va bien en attaque. Bon, on découvre pas que McLaurin c'est pas la moitié d'un joueur. Logan Thomas, Robinson, Gibson, tout le monde contribue. C'est pas spectaculaire, c'est pas star power, c'est pas machin. Mais en attendant, gagner en NFL, c'est jamais facile. Et ils gagnent semaine après semaine après semaine. Et là clairement, bah, y a une dynamique. Et y a un coach qui est en train de sauver ça de sa peau.
Oui, encore, c'est vrai. 40 courses pour 27 passes. Moi, c'est ça que j'aime bien. Ils ont leur identité, ils vont pas forcer. Ils ont dit que Carson Wentz restait sur le banc maintenant. Bon. 20-0 à la pause pour eux. Ça a été un match géré correctement. Est-ce que Houston doit changer quelque chose? Lovie Smith a dit quand même, je reviens sur eux, parce que Lovie Smith a dit en conférence de presse, on va peut-être changer quelque chose, on ne sait pas encore quoi, peut-être le quarterback, peut-être pas, peut-être le kiné, peut-être le chauffeur du bus.
Le souci pour eux, c'est qu'en vrai, peu importe ce qui change, ça change rien à leur saison, in fine, parce que de toute manière, ce qu'ils ont au poste de quarterback pour changer à la place de Mills, c'est pas l'avenir, ça sera pas l'avenir. Donc,
J'ai un trou, c'est qui la doublure?
Je vois même pas très bien.
C'est Kyle Allen, je pense, non?
Ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi, mais.
Je vérifie en même temps, je vous avoue. Parce que là, j'ai un petit trou. Mais oui, non.
Non, mais tu. Enfin, voilà, il n'y a même pas tellement de. Ouais, enfin. Bon, qu'est-ce qui va changer? Et va changer, j'ai envie de dire, le cours de cette saison. Au pire, ils font des changements, ils vont prendre un match ou deux en plus. Okay.
Alors, c'est bien Kyle Allen, mais en effet, de toute façon, là, l'idée, c'est d'avoir un quarterback à la draft, donc ça sert à rien d'essayer de mettre un électrochoc. Non, donne-nous le nom du numéro 1 de l'année prochaine, Victor.
Il y en a deux qui se battent. Il y a Bryce Young et CJ Stroud.
Et c'est qui le plus fort?
Pour moi, c'est Bryce Young. Pour le consensus, c'est CJ Stroud.
Bon, ah ouais, donc il va y avoir débat.
Ouais.
Il va y avoir débat. Lequel est Trevor Lawrence, lequel est Zach Wilson? Vous le saurez d'ici quelques mois. On enchaîne avec les Saints 27, les Rams 20. Le match, moi j'appelle ça le match Pôle emploi d'Andy Dalton. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on l'amène vers la porte, qu'on lui dit bon, bah, il va falloir aller à Pôle emploi, on dit hop, il sort un match comme ça. Il le recolle sur son CV et les gens font non, bah, en fait, tu vas garder le job. Franchement, tu peux driver une équipe NFL de temps en temps. 21 sur 25, 260 yards, 3 touchdowns, aucune interception. C'est du Andy Dalton grand cru contre des Rams qui sont quand même à la ramasse. Bon, on va rendre hommage à ceux qui ont bouclé le match quand même. Chris Olave à plus de 100 yards, Joanne Johnson qui capte encore un touchdown. Il y a des armes, mine de rien, à New Orleans quand ils sont en forme.
Il y a des armes, clairement. Plutôt des jeunes armes. Hein. En plus, tu l'as dit, Olave rookie, Joanne Johnson, c'est vraiment cette année qu'il est en train d'émerger depuis maintenant un mois et demi notamment, où il enchaîne un minimum de réceptions et de touchdowns à chaque fois. C'est une bonne nouvelle parce que clairement, Jarvis Landry et Michael Thomas, je ne suis pas sûr qu'on puisse compter sur eux pour la suite. Enfin, ça a l'air quand même très compliqué, que ce soit physiquement, mentalement, etc. Donc, s'ils peuvent au moins repartir avec Olave et Johnson pour l'an prochain, ça fait un petit socle de base. Voilà, après, et la défense, j'ai envie de dire que la défense allait un poil mieux, mais ouais, je suis en même temps moi-même mitigé sur mon avis sur cette défense. Donc,
bon, il y avait match hein, avant la sortie de Matthew Stafford sur une nouvelle suspicion de commotion cérébrale. Il est dans le protocole commotion à nouveau. Il avait lancé deux touchdowns, Stafford, dont un pour Tutu Atwell, quand même, qui se montrait enfin.
Le receveur favori de Raphaël.
Voilà. Donc, les Rams qui sont menés que de 3 points hein, quand il sort Stafford. Ensuite, c'est Bryce Perkins, le troisième quarterback qui vient jouer parce que John Wolford non plus n'est pas disponible. Commotion aussi, d'ailleurs, je ne sais plus. Il était,
commotion. Ouais, il me semble que c'est ça. Ils perdent également au cours du match leur troisième left tackle de la saison.
Ouais.
Ah non, mais là au niveau de left tackle, c'est terrible.
Donc Bryce Perkins complète 5 passes pour 64 yards. À partir de là, comme tu disais, il n'y a plus de tackle, il n'y a plus de quarterback, il n'y avait déjà pas vraiment de ligne offensive.
Il n'y a plus Cooper Kupp.
Il n'y a plus Cooper Kupp. Cam Akers fait son meilleur match de la saison, mine de rien, avec 61 yards. Mais voilà, non, mais c'est là, bon, là, c'est fini. 3 victoires, 7 défaites. Est-ce qu'on en est maintenant à se demander même, est-ce qu'il y a un intérêt à faire jouer Kupp et éventuellement même Stafford cette saison, en fait?
Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai plaidé dans le résumé du match, hein, que j'ai écrit sur le site, où je laisse sous-entendre que là, la solution, c'est peut-être de laisser tous les vétérans qui ont un peu mal, qui souffrent un peu, presque les laisser au repos, parce que sincèrement, il n'y a quand même plus rien à aller chercher cette saison. Donc après, si les mecs veulent jouer, bon, bah, tu les mets sur le terrain, parce que tu ne vas pas les empêcher de jouer, mais ouais, qu'ils prennent leurs précautions avec Cup, qu'ils ne le fassent pas revenir trop tôt, qu'ils prennent leurs précautions avec Stafford aussi, parce que là, c'est la saison, la croix et la bannière, et ils vont aller jusqu'au bout, quoi. Je veux dire, c'est...
Et ce qui est un peu frustrant, du coup, c'est qu'ils n'ont même pas leur premier tour. Hein.
Oui, c'est vrai.
Qui est à Détroit. Bon, après, je pense qu'ils ne le regrettent pas, ce trade, parce qu'ils ont une bague et c'est la finalité de la NFL, hein, gagner des titres. Mais qui aurait pu croire qu'au moment du trade de Stafford, que le pic des Rams serait meilleur que le pic des Lions, quoi. Donc aujourd'hui...
Tu l'as refait jouer, toi, Stafford. Ça fait 2 semaines de suite en protocole commotion.
Non.
Hein.
Non, mais Stafford, il ne faut pas le faire jouer. Faut pas le faire jouer.
C'est même pour sa vie, là. Il faut arrêter les commotions chaque semaine. Hein, parce que
faut arrêter. Mais c'est assez prodigieux de voir que les Broncos, les Rams, les Browns et les Saints, qui ont tous les quatre vendu leur premier tour, sont tous les quatre dans le top 10. Mais non, mais les Rams, faut que ça s'arrête. C'est fini à cette saison. Enfin, je veux dire, tu fais jouer Bryce Perkins jusqu'à la fin de la saison et tu perds des matchs et c'est pas grave. Là, faut accepter que c'est fini. Hein.
Petit quiz. Le dernier champion en titre qui a terminé avec un bilan négatif.
Un bilan négatif. Les Buccaneers de 2003.
Alors, Buccaneers 2003 pour Victor.
Oh, j'aurais dit plus récent, moi, mais... La saison qui suit leur titre, tu veux dire?
Ouais, la saison qui suit leur titre avec un bilan négatif.
Ouais, quoique Buccaneers, ça... peut-être les Giants après le deuxième?
Alors, c'est bien les Buccaneers de 2003. Je pensais aussi que ça aurait été qu'il y aurait eu des cas plus récents. Je me demande
J'ai
si
hésité avec les Broncos post-Manning. Mais...
Ah oui, oui, c'est vrai que c'était un bon candidat pour le coup. Mais oui, non, j'étais étonné aussi que ça remonte à si loin. Je pense que les Giants, ça a peut-être dû faire des 8-8 ou des choses comme ça. Tu vois. Parce que
les Giants, c'est des saisons où tous les ans ils accrochent une wild card, tu sais pas comment.
Ouais, c'est peut-être 8-6 ou 9-6 ou un truc comme ça. Ouais. Mais les Broncos, ils gagnent le Super Bowl et derrière ils sont à 9-7. Ouais, tu vois.
C'est ça. C'était ce genre de choses.
Avec Trevor Siemian. Mine de rien. Par contre, il retombe à 5-11 l'année d'après. Bon, tu vois, c'était un retardement. Les Falcons qui battent les Bears pour terminer 27-24 pour Atlanta. On savait que ça allait courir. Ça n'a pas déçu de ce côté-là. Les deux équipes ont plus de yards à la course qu'à la passe. Les deux équipes ont plus de yards. Je ne sais pas si ça arrive souvent que les deux équipes aient plus de yards à la course qu'à la passe. Justin Fields a encore quelques éclairs de génie, mais son interception dans sa moitié de terrain à 1 minute 13 de la fin a tué son équipe. Les Falcons ont 1000 field goals de la gang derrière. C'est dur. Mais ça montre aussi les progrès que doit faire Fields quand il ne peut pas courir. Victor, je sens que là, il a envie de prendre la défense de son joueur de fantasy préféré.
Attends.
Parce que Justin, il a sauvé sa saison fantasy, donc Victor,
qui a pu lui donner comment
Grégory. Grégory l'a lâché.
Greg l'a coupé, on ne sait pas
pourquoi. Grégory l'a coupé et j'ai récupéré avant qu'il explose. Bon, c'est vrai qu'il est en train de sauver ma fantasy. Enfin, ça, c'est autre chose. Du coup, j'adore maintenant. Non, mais par contre, sur ce match-là, Dieu sait que j'ai été critique avec Fields. Mais sur ce match-là, en deuxième mi-temps, il ne peut plus marcher. Il est touché, il boite. Et je veux dire, oui, d'accord, il n'a aucune mobilité dans la poche et il ne court plus. Mais parce qu'il ne peut plus. Parce qu'il ne peut plus. En première mi-temps, il fait, je ne sais pas, un truc genre 15 ou 16 courses. Je n'ai jamais vu ça pour un quarterback. Et en deuxième mi-temps, il ne court plus parce que juste, il ne peut plus marcher. Donc, il y a un moment, moi, j'ai vu des mecs dire, ah, Fields, il perd encore, il est à 0-4 ou je ne sais pas quoi. Bah, oui, d'accord, mais enfin, ce match-là, tu peux pas le mettre sur Fields à partir du moment où il était tellement touché qu'il était incapable de marcher et qu'ils l'ont même pas mis sur le banc. Moi, je suis désolé, il aurait dû finir sur le banc parce que le pauvre, il pouvait plus. Là.
Oui, puis tu parles de marcher, mais il y a l'épaule. Hein. Apparemment, il s'est fait mal à l'épaule et son coach, Matt Eberflus, ne veut pas en dire plus. Il attend les résultats d'examen qui doivent être donnés mercredi, donc le jour où vous nous écoutez.
Mais la cheville, à mon avis, elle n'est pas en bon état non plus.
Et il n'exclut pas une fin de saison.
Ouais, mais
donc là, ce serait le drame pour la fantaisie de Victor, par contre. Parce que le rêve s'arrêterait aussi vite qu'il a repris. Hein.
Ah bah là, là, ça serait compliqué, ouais. Quand ça va partir avec des grands Ryan Tannehill ou compagnie.
J'allais dire, qui est ton quarterback remplaçant
Je crois que c'est Stafford. Je crois que j'avais hésité entre Tannehill et Stafford. je crois que j'avais gardé Stafford.
Je me permets l'aparté parce qu'on est dans le timing aujourd'hui.
Oui,
sur
c'est
l'émission,
bien Stafford, je confirme.
Je regarde ton effectif.
Non, c'est Stafford.
Tu avais Wendell Robinson, hein, donc tu es dangereux pour la santé des joueurs aussi cette semaine quand même, parce qu'il y a un croisé et une épaule qu'on sautait là dans le. Ah oui, et t'as Stafford aussi qui se fait une commotion. Donc, ouais, c'est chat noir.
Il n'y a peut-être pas de quarterback la semaine prochaine, hein, Victor. Il va falloir aller chercher je ne sais pas qui de libre dans votre ligue, là. Mais,
alors, attends,
chaud, hein.
Je vois l'effectif de Victor. Il a aussi Brissy Hall. Hein. Donc, c'est la grande faucheuse, en fait, Victor.
J'ai mis 9 joueurs sur Injury Report cette saison.
Il n'y avait même plus de spot Injury Report dans le
ah
truc.
Ah non, j'ai été obligé de couper dépour. Les mecs parce que j'avais plus de spot Injury Report, oui, je te confirme.
Ouais. Bon, non, mais après, je rejoins Victor là-dessus. Le match est compliqué. Encore une fois, la ligne offensive de Chicago est vraiment sous pression très, très souvent. Et pourtant, le pass rush d'Atlanta, normalement, c'est quand même pas c'est pas une top unit de la ligue. Hein, c'est pas un top 10. Donc, voilà, il y a toujours cette difficulté sur la ligne offensive. Derrière, il est un peu diminué physiquement. Oui, il fait une ou deux erreurs, mais. Bon, moi, je serais aussi un peu d'avis que malgré tout, depuis l'an dernier, on l'a vu progresser. Il y a un quarterback deuxième année qui progresse. Pour moi, c'est déjà.
Oui, non, mais clairement.
Tu vois, sur clairement. Les quarterbacks de deuxième année, là, toute cette QV draft, Lawrence, Wilson, tu me demandes qui prendre demain pour commencer la saison prochaine. Bah, je ne suis pas sûr que je ne vais pas vers Fields, moi.
En tout cas, il a vachement remonté la pente, ça c'est sûr. Parce qu'il y a
oui,
un moment.
Oui,
où...
il était plus loin que ça un moment, mais tu vois, je sais non, pas si c'est.
De toute façon, c'est tout l'essentiel de ces matchs entre des équipes qui jouent pas grand chose. Hein. Le score, il est quasiment annexe pour Chicago. L'important, c'est qu'ils fassent des progrès. Et on l'a dit, là, il va falloir espérer que les blessures soient pas sérieuses. Du côté d'Atlanta, Mariota, qui fait un peu le même match à la passe, sauf que lui, il a quand même des coureurs pour l'aider sur ce match-là, parce que tu le disais, Fields a beaucoup couru. Mais là, Mariota, lui, il a Cordarrelle Patterson, qui est incroyable, 9e retour de kick-off pour un touchdown dans sa carrière. C'est un record NFL. C'est le MVP des Falcons, hein, Cordarrelle Patterson, quand il est là.
Bah depuis quasiment deux saisons. Hein. Enfin, c'est l'année dernière, c'était déjà lui le MVP. C'est le genre de joueur qu'on a mis 8 ans à savoir utiliser. Mais globalement, cette équipe, bah, encore une fois, elle joue avec humilité, elle joue avec ses forces. Ils ne veulent pas en faire trop. Tu parlais d'équilibre 20 passes pour 33 courses. Enfin, c'est clairement l'identité, elle est là aussi. Alors, petite incertitude, je
ouais,
crois,
Kyle
Pitts.
Alors, ça sent la fin de saison, ouais, en effet.
Ouais, ça, c'est pas terrible, ça, quand même. Hein.
Ça, c'est pas terrible. On espère que, du coup, il lance tous ses touchdowns à Drake London.
Oui.
On va arrêter de parler de fantasy.
En effet, oui, il l'a dans sa fantasy. Je viens de remarquer que tu as aussi Melvin Gordon. Hein. Décidément, c'était pas une grande semaine.
oui. Mais lui, c'était un bouche-trou parce que j'avais des bails et des machins. Mais j'ai déjà son remplaçant. Non, après, voilà, je trouve que la défense d'Atlanta aussi, elle sera pas bonne. Elle sera jamais très bonne cette saison. On le sait, ça manque de talent partout. Mais ça fait le travail, quoi. C'est-à-dire que ça provoque la perte de balles par-ci, par-là. Ça limite les gains pour essayer de garder l'attaque dans le match. Et bon, bah, bon an, mal an, ils sont à 5-6. On est pas mal, hein.
Oui, c'est vrai qu'ils sont. Oui, ils sont encore vivants. Ils sont encore vivants.
Ouais,
après, est-ce
oui.
que.
Après, pourquoi
est-ce... Oui, voilà, j'allais dire, Raphaël, est-ce que t'en attends quand même quelque chose? On connaît leurs limites. Ils sont fun à voir jouer par moment, mais on connaît leurs limites quand même.
Oui, non, mais c'est... Franchement, c'était encore une fois un match très Falcons. Hein. Ouais. C'est le même contenu qu'ils font semaine après semaine. Un jeu aérien en difficulté qui a du mal à trouver ses deux cibles pourtant talentueuses sur le papier, Pitts et London. Mmh. Mais un jeu au sol qui fonctionne très bien. Bon, bah, ils ont construit cette saison-là là-dessus. Ça va peut-être les mener à un bilan équilibré ou tout juste à l'équilibre, pas loin en tout cas, mais pour pas grand-chose de plus cette saison. Bon, après, les bases, on va dire que si on optimise, les fondations continuent à se poser progressivement, quoi.
Eh bien, c'est comme ça qu'on va terminer l'épisode 544 du podcast Touchdown Actu. On vous remercie de nous écouter. On est évidemment disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des évaluations si vous le pouvez. Si vous prenez 2 minutes, ça nous aide dans les classements. On remercie aussi ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Je rappelle, hein, il y a plein de beaux sous-verts. Il y a aussi des marque-pages maintenant sur le Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre donc ceux qui nous soutiennent. Marcus Marf, Tom, Elway75, Tibal, Joshua Jali, Jim Brands, François, Yann, Koukoulem, KNTN, Mr. Mister Burp et Toto Maton en plus cette semaine. Je refais juste un aparté fantasy. Victor, j'ai un Aaron Rodgers qui traîne sur le banc. Si tu as besoin d'un quarterback, je suis ouvert aux échanges.
Ouh. Non, mais j'ai mieux qu'Aaron Rodgers.
Ah. T'as mieux qu'Aaron Rodgers?
Ah oui, dans la même division.
Attends, tu l'as réclamé sur le waiver alors, parce que je ne le vois pas dans ton effectif.
Bah, je te dirai rien.
Je vais aller voir sur le waiver. je vais aller mettre un claim au cas où.
C'est ça. Non, mais je vois bien, écoute.
Non, j'ai Lamar et Aaron Rodgers. Donc, tu vois, je peux me séparer d'un Rodgers. Même si Lamar faiblit hein, ces dernières semaines, je suis un peu déçu. Il avait bien démarré la saison, tu vois. Bon. Raphaël, on parle d'une ligue où t'es pas à toi. Ça se passe bien dans tes ligues ou pas?
Écoute, ça se passe moyennement, on va dire. Enfin, je suis largement en course pour les playoffs, mais là où c'est moyen, c'est que je suis la deuxième attaque de la ligue et j'ai un bilan que de 6-5.
Ah bah, le classique.
Non, mais donc, attends, il laisse ses meilleurs joueurs sur le banc et il triche tellement qu'on en est à convoquer un sommet extraordinaire. Ah.
Si ce n'est pas interdit par la règle, ce n'est pas de la triche.
Comment il peut tricher? Comment il peut tricher?
Si ce n'est pas interdit par la règle, ce n'est pas de la triche.
Comment il peut tricher? Qu'est-ce qu'il a fait?
Oh, c'est en gros, il y a un head coach en fait dans cette ligue-là. C'est une ligue où il y a beaucoup de choses, dont un head coach.
Okay.
Et au lieu de mettre un head coach, il a laissé la ligne blanche. Parce que head coach peut faire positif ou négatif. En
fait.
Ah.
Si ton head coach perd le match, bah, tu perds des points. Donc, du coup, moi, je n'ai mis personne pour ne pas perdre de points parce qu'il n'y avait personne à récupérer.
Et okay. Sur ton banc, le coach, c'était le coach des
Des Cowboys.
Des Cowboys qui ont mis 37 points aux Vikings. Voilà. Ah, non, c'est vrai, et après, il se plaint de perdre des matchs. Non, mais c'est incroyable.
Bon, moi, je tiens à dire en aparté que si vous écoutez cette émission mercredi matin et que la France a gagné, c'est un peu grâce à moi parce que Antoine Griezmann m'a battu en fantasy. Et du coup, il a le moral, tu vois, à bloc. Et je pense qu'au moment où vous nous écoutez, il a marqué 3 buts parce qu'il était vraiment heureux de sa victoire.
Est-ce qu'il aurait pas fallu le battre pour qu'il ait la rage, tu vois?
Écoute, je sais pas. Il avait l'air content d'avoir gagné.
Bon, bah, tant mieux.
Plus content que moi, en tout cas, parce qu'en vrai, j'ai pas fait exprès. Hein. Je suis tellement mauvais joueur que j'aurais préféré gagner. Mais bon, je me suis dit au moins, j'ai fait une bonne action. Il s'est réveillé, il a regardé les résultats et au moins, il avait le sourire. Il a bien débuté sa journée. Peut-être qu'ils ont gagné comme ça.
Donc là, on mise Griezmann buteur sur une ibet au moment où on enregistre nous. C'est ça que tu nous dis?
C'est ça. Bah, j'espère. Écoute, j'espère.
Allez,
t'as vu un peu, on enregistre cette émission avant le match et vous l'écoutez après. Donc, imagine, on l'aurait enregistré avant Argentine-Arabie Saoudite.
Tu n'as pas une fantaisie avec Lionel Messi par hasard?
Non, je ne l'ai pas battu en fantaisie la nuit dernière. Donc, visiblement, ça va être une stat isolée. Hein. Il n'y aura pas d'échantillon B pour vérifier. on se quitte là-dessus, messieurs. Je vous remercie, évidemment, comme d'habitude. On se retrouve très, très vite et on se retrouve à 18h30 jeudi pour un live de Thanksgiving. On fera, comment ils appellent ça, les jeunes, une watch party, je crois, ou une viewing party, je ne sais plus comment on dit. Bref, on regarde, avant, on appelait ça un commentaire de match. Maintenant, on appelle ça une viewing party, mais on regardera le match Bills Lions sur Twitch. Évidemment, nous, on n'a pas les images. Vous ne verrez que mes réactions. C'est un commentaire de pauvre, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas les images du match, mais vous verrez ma tronche qui commente.
C'est vraiment un super commercial. Hein.
Mais c'est pour ça, les gens qui font du Twitch, ils sont super bons, tu vois, en commerce, parce qu'ils ont rebrandé ça, tu vois. Ils disent, ouais, c'est une viewing party et tout, ça a l'air trop cool. Mais en fait, c'est un commentaire où tu n'as pas les images. Donc, bon,
et si on a 200 abonnés, Alain laisse sa caméra et vous pourrez le voir dormir toute la nuit,
voilà,
comme les meilleures Twitcheuses du monde.
Évidemment. Et au-dessus de 500 viewers, j'oublie mon amour propre. Et ouais, t'as raison, je laisse tourner. Je sais pas comment on fait, mais bref. Je la laisse tourner toute la nuit sur mon bureau vide, tu vois. Et genre, les gens me voient arriver à 6h du matin avec mon café, tu vois, en mode, bon, faut mettre les résumés ce matin. Bon. Allez, donc 18h30 jeudi pour le match Bills Lions, sur Twitch. En attendant, les réseaux sociaux Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TheJeuneActu en entier et TikTok @TDActu, TDActu.com évidemment. C'est le site où vous avez tous les liens pour le podcast si vous voulez écouter sur n'importe quelle plateforme. En attendant la viewing party, d'ailleurs, on se retrouve demain avec Victor sur la case du jeudi pour la preview. On vous l'a dit, on parlera largement des Ravens. Merci beaucoup, messieurs.
Merci.
Encore une grosse semaine sur TD Actu. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TD Actu. Le mardi, le jeudi, TD
baguette au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.